Bon, nous sommes rendus à la leçon 25 dans notre série sur la théologie réformée systématique. Aujourd'hui, nous allons voir l'introduction à la nature de Dieu et de ses attributs. Donc, on va y avoir une partie 1 et une partie 2. Aujourd'hui, on va faire la partie 1. Alors, ce qu'on va regarder aujourd'hui, c'est le témoignage biblique de la nature unique de Dieu. Deuxièmement, on va regarder quelques textes importants des Écritures sur les attributs de Dieu. Et troisièmement, on va regarder une approche biblique pour étudier les attributs de Dieu. Les doctrines de la nature de Dieu et de ses attributs sont d'une profondeur infinie. Comme le dit les Saintes Écritures, ôtons nos souliers, car le lieu sur lequel nous nous tenons est une terre sainte. Nous allons regarder Exode au chapitre 3, les versets 2 à 6. L'ange de l'Éternel lui apparut dans une flamme de feu au milieu d'un buisson. Moïse regarda, et voici le buisson était tout en feu, et le buisson ne se consumait point. Moïse dit, « Je veux me détourner pour voir quelle est cette grande vision, et pourquoi le buisson ne se consume point. » L'Éternel vit qu'il se détournait pour voir, et Dieu l'appela du milieu du buisson, et dit, « Moïse, Moïse. » Il répondit, « Me voici. » Et Dieu dit, « N'approche pas d'ici. Ôte tes souliers de tes pieds, car le lieu sur lequel tu te tiens est une terre sainte. » Et il ajouta, « Je suis le Dieu de ton père, le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac et le Dieu de Jacob. » Moïse se cacha de visage, car il craignait de regarder Dieu. On peut aller voir aussi le psaume 145, verset 3. L'Éternel est grand et très digne de louange, et sa grandeur est insondable. On va regarder le premier point, le témoignage biblique de la nature unique de Dieu. Nous citons une partie de cet article comme introduction à ce glorieux sujet. Bien qu'il ne soit pas possible de définir Dieu, nous avons quand même une description générale de sa personne. Le mieux est de la décrire comme un pur esprit de perfection infinie. Cette description contient les éléments suivants. Premièrement, Dieu est un pur esprit. La Bible ne nous offre pas de définition de Dieu. L'approche la plus fidèle est celle que nous trouvons dans les paroles même de Jésus-Christ à la femme samaritaine. « Dieu est esprit » Jean chapitre 4, verset 24. Ce qui veut dire qu'il est essentiellement esprit. Toutes les qualités qui sont propres à l'idée parfaite de l'esprit se trouvent nécessairement en lui. Le fait qu'il est par l'esprit exclu, qu'il est pur, esprit, c'est-à-dire, excusez-moi, exclut toute idée de corporéité ou de forme visible, perceptible à l'œil physique. Deuxième idée, Dieu est un être personnel. Le fait que Dieu soit esprit implique qu'il a une personnalité. Un esprit est un être intelligent et moral. Lorsque nous attribuons à Dieu une personnalité, nous voulons dire qu'il est un être de raison, capable de déterminer sa propre existence. De nombreux théologiens libéraux modernes nient actuellement la personnalité de Dieu. Ils la tiennent plutôt pour une force ou une puissance impersonnelle. Cependant, selon l'Écriture, Dieu est un Dieu personnel, un Dieu avec qui l'homme peut entrer en relation personnelle, avec qui il peut converser, faire son expérience et qui l'aide dans ses difficultés. Il peut se confier en lui, il remplit son cœur de joie et de bonheur. En outre, il s'est révélé aux hommes de manière personnelle, en Jésus-Christ. Troisième idée, Dieu est infiniment parfait. Dieu se distingue de toutes ses créatures par sa perfection infinie. Son être et ses vertus sont exempts de toute limitation et de toute imperfection. Non seulement il est illimité et infini, mais il se distingue de toutes ses créatures par sa perfection morale et sa majesté glorieuse. Les Israélites chantèrent la grandeur de Dieu après le passage de la mer Rouge. Qui est comme toi parmi les dieux, ô Éternel? Qui est comme toi, magnifique en sainteté, redoutable et digne de louange, opérant des miracles, comme nous pouvons le lire dans Exode chapitre 15, verset 11. De nos jours, certains théologiens représentent Dieu comme fini ou limité, se développant, luttant, souffrant, partageant avec l'homme ses défaites et ses victoires. Quatrième idée, c'est que Dieu et ses perfections sont une unité. La simplicité est l'un des traits fondamentaux de Dieu. Ceci signifie qu'il n'est pas composé de parties différentes, mais que son être et ses attributs sont identiques. Les perfections de Dieu sont son être même tel qu'il s'est révélé aux hommes. Elles sont les diverses manifestations de son être divin. Aussi, la Bible nous dit-elle que Dieu est vérité, vie, lumière, amour et justice. Alors, c'est un article qui est tiré du site chrétien, Ressources chrétiennes, et qui parle de la nature essentielle de Dieu. Deuxième point qu'on va regarder, c'est quelques textes importants sur les attributs de Dieu. Le Seigneur a enseigné son peuple à le connaître par le moyen de ses attributs. Toutes les saintes écritures révèlent Dieu. Cependant, certains passages sont particulièrement éloquents. Regardons-en quelques-uns. Moïse a demandé à Dieu de lui faire voir sa gloire. Nous lisons par exemple dans Exode chapitre 33, les versets 18 à 23. Moïse dit, « Fais-moi voir ta gloire. » L'Éternel répondit, « Je ferai passer devant toi toute ma bonté, et je proclamerai devant toi le nom de l'Éternel. Je fais grâce à qui je fais grâce, et miséricorde à qui je fais miséricorde. » L'Éternel dit, « Tu ne pourras pas voir ma face, car l'homme ne peut me voir et vivre. » L'Éternel dit, « Voici un lieu près de moi. Tu te tiendras sur le rocher. Quand ma gloire passera, je te mettrai dans un creux du rocher et je te couvrirai de ma main jusqu'à ce que j'aie passé. Et lorsque je retournerai ma main, tu me verras par derrière, mais ma face ne pourra être vue. » Grégoire de Nazian, qui a vécu de l'an 329 à l'an 390, réfléchissant sur la rencontre de Moïse avec Dieu, a dit que nous pouvons connaître Dieu seulement lorsque nous sommes cachés en Christ, qui est le rocher. Alors, allons voir quelques versets. 1 Corinthiens, chapitre 10, verset 4. Versets 1 à 4. Frères, je ne veux pas que vous ignoriez que nos pères ont tous été sous la nuée, qu'ils ont tous passé au travers de la mer, qu'ils ont tous été baptisés en Moïse dans la nuée et dans la mer, qu'ils ont tous mangé le même aliment spirituel et qu'ils ont tous bu le même breuvage spirituel, car ils buvaient à un rocher spirituel qui les suivait. Et ce rocher était Christ. Alors, on va aller regarder quelques autres versets. Exode, chapitre 34, versets 6 et 7. Et l'Éternel passa devant lui et s'écria. L'Éternel, l'Éternel, Dieu miséricordieux et compatissant, lent à la colère, riche en bonté et en fidélité, qui conserve son amour jusqu'à 1000 générations, qui pardonne l'iniquité, la rébellion et le péché, mais qui ne tient point de coupable pour innocent, qui punit l'iniquité des pères sur les enfants et sur les enfants des enfants jusqu'à la troisième et à la quatrième génération. Donc, Exode 34, versets 6 et 7, présente Dieu en termes de sa seigneurie et de son amour. Dieu affirme sa miséricorde, sa passion, sa patience, sa bonté, sa fidélité, son pardon, sa grâce et sa justice. Psaume 145. David présente les attributs de Dieu pour appeler toute l'humanité à adorer et à louer le Seigneur pour toujours. Ses motifs de louange sont les attributs de Dieu. Tout comme Exode 34, versets 6 et 7 présente la gloire de Dieu avec un équilibre entre la seigneurie divine et l'amour, le psaume 145 oscille entre la majesté de Dieu et sa miséricorde. Considérez les attributs divins proclamés et exaltés dans le psaume 145. Premièrement, la grandeur, la puissance et la majesté, dans les versets 3 à 6. L'Éternel est grand et très digne de louange, et sa grandeur est insondable. Que chaque génération célèbre tes œuvres et publie tes hauts faits. Je dirai la grandeur glorieuse de ta majesté. Je chanterai tes merveilles. On parlera de ta puissance redoutable. Et je raconterai ta grandeur. Parmi les autres attributs divins, la bonté, la justice, la grâce, la compassion et la miséricorde de Dieu, dans les versets 7 à 9. Alors on va lire les versets 7 à 9. Qu'on proclame le souvenir de ton immense bonté. Qu'on célèbre ta justice. L'Éternel est miséricordieux et compatissant, lent à la colère et plein de bonté. L'Éternel est bon envers tous, et ses compassions s'étendent sur toutes ses œuvres. Autre attribut proclamé, la gloire, la puissance, le royaume, la majesté et l'éternité de Dieu dans les versets 11 à 13. Verset 11, ils diront la gloire de ton règne, et ils proclameront ta puissance, pour faire connaître au Fils de l'homme ta puissance et la splendeur glorieuse de ton règne. Ton règne est un règne de tous les siècles, et ta domination subsiste dans tous les âges. Autre attribut qui sont parlés dans les versets 14 à 21, la provision royale de Dieu, la justice et le salut miséricordieux. L'Éternel soutient tous ceux qui tombent, et il redresse tous ceux qui sont courbés. Les yeux de tous espèrent en toi, et tu leur donnes la nourriture en son temps. Tu ouvres la main, et tu rassasies à soi tout ce qui a vie. L'Éternel est juste dans toutes ses voies, et miséricordieux dans toutes ses œuvres. L'Éternel est près de tous ceux qui l'invoquent, de tous ceux qui l'invoquent avec sincérité. Il accomplit les désirs de ceux qu'il craint. Il entend leurs cris et il les sauve. L'Éternel garde tous ceux qui l'aiment et il détruit tous les méchants. Que ma bouche publie la louange de l'Éternel et que toute chair bénisse son Saint-Nom à toujours et à perpétuité. Ici encore, nous retrouvons les deux dimensions fondamentales de qui et de ce qu'est Dieu, sa grandeur et sa bonté, On va aller regarder le passage dans Jérémie, chapitre 9, verset 24. Mais que celui qui veut se glorifie d'avoir de l'intelligence et de me connaître, de savoir que je suis l'Éternel, qui exerce la bonté, le droit et la justice sur la terre, car c'est à cela que je prends plaisir, dit l'Éternel. On note la similitude du texte avec Exode 34, versets 6 et 7, dans sa déclaration de seigneurie divine, suivie d'une liste de perfections morales. En conjonction avec les attributs moraux, nous trouvons aussi une révélation de l'affection divine, quand il nous dit « car c'est à cela que je prends plaisir ». Le Seigneur menace alors de jugement ceux qui, quel que soit l'état de leur corps, sont incirconcis de cœur, comme on le lit dans Jérémie 9, 25-26. La circoncision était le signe extérieur de la fidélité à l'Alliance, comme on peut le lire dans Genèse chapitre 17, verset 10. La séquence de pensée allant de la connaissance de Dieu à la circoncision du cœur suggère que Dieu crée un peuple qui garde son alliance en lui donnant une connaissance de cœur de lui dans ses attributs, une composante essentielle de la circoncision du cœur. La prochaine prophétie du livre de Jérémie attaque la stupidité des nations pour adorer des objets impuissants fabriqués par les hommes. Par contraste, il élève l'incomparable Seigneur qui est grand, puissant, vrai, vivant, éternel, courroucé et sage créateur. Le contraste avec l'idole de l'homme est saisissant. Il est vrai, ils sont faux. Il est vivant, ils sont sans vie. Il est éternel, ils sont sujets à la décomposition et à la destruction. Il est puissant dans sa colère, ils sont impuissants devant lui. On va aller regarder quelques autres versets dans le chapitre 10 de Jérémie, les versets 6 et 7, 10 et 12. Jérémie 10, versets 6 et 7. Nul n'est semblable à toi, ô Éternel. Tu es grand et ton nom est grand par ta puissance. Qui ne te craindrait, roi des nations? C'est à toi que la crainte est due, car parmi tous les sages des nations et dans tous les royaumes, nul n'est semblable à toi. Et les versets 10. Mais l'Éternel est un Dieu en vérité. Il est un Dieu vivant et un roi éternel. La terre tremble devant sa colère et les nations ne supportent pas sa fureur. Et le verset 12, il a créé la terre par sa puissance, il a fondé le monde par sa sagesse, il a étendu les cieux par son intelligence. Alors, on parlait de plusieurs versets qui étaient importants concernant les attributs de Dieu. On a aussi 1 Timothée, chapitre 1, versets 12 à 17, et 1 Timothée, chapitre 16, versets 15 et 16. Alors, on va commencer par 1 Timothée, chapitre 1, versets 12 à 17. « Je rends grâce à celui qui m'a fortifié, à Jésus-Christ, notre Seigneur, de ce qu'il m'a jugé fidèle, en m'établissant dans le ministère, moi qui, auparavant, était un blasphémateur, un persécuteur, un homme violent. Mais j'ai obtenu miséricorde parce que j'agissais par ignorance dans l'incrédulité. Et la grâce de notre Seigneur a surabondé avec la foi et la charité qui est en Jésus-Christ. C'est une parole certaine et entièrement digne d'être reçue que Jésus-Christ est venu dans le monde pour sauver les pécheurs, dont je suis le premier. Mais j'ai obtenu miséricorde, afin que Jésus-Christ fît voir en moi, le premier, toute sa longanimité, pour que je servisse d'exemple à ceux qui croiraient en lui pour la vie éternelle, au roi des siècles, immortel, invisible, seul Dieu, soit honneur et gloire, au siècle des siècles. Amen. Dans le Nouveau Testament, la prise en compte par Paul de la miséricorde et de la grâce et de la longanimité salvatrice du Christ le conduit à adorer la suprématie divine lorsqu'il dit « Au roi des siècles, immortel, invisible, seul Dieu soit honneur et gloire, au siècle des siècles. Amen. » Paul passe de la bonté salvifique de Dieu en Christ à la grandeur suprême de Dieu en Christ. Plus tard, dans le même livre, Paul propose une doxologie élargie pour le bienheureux et seul souverain, le roi des rois et le seigneur des seigneurs, qui seul possède l'immortalité, qui habite une lumière inaccessible, que nul homme n'a vu ni ne peut voir, à qui appartiennent l'honneur et la puissance éternelle. Amen. Alors, 1 Timothée, chapitre 6, versets 13 à 16. « Je te recommande devant Dieu, qui donne la vie à toutes choses, et devant Jésus-Christ, qui fit une telle confession devant Ponce Pilate, de garder le commandement et de vivre sans tâche, sans reproche, jusqu'à l'apparition de notre Seigneur Jésus-Christ, que manifestera en son temps le bienheureux et seul souverain, le roi des rois et le seigneur des seigneurs, qui seul possède l'immortalité, qui habite une lumière inaccessible que nul homme n'a vu ni ne peut voir, à qui appartiennent l'honneur et la puissance éternelle. Amen. » Loin d'être un tyran froid et distant, ses attributs de majesté représentent le Seigneur comme le roi de la joie, tant dans cette vie que dans la résurrection à la vie éternelle accordée au retour de Christ. Par conséquent, nous constatons que la religion biblique est une foi fondée sur les attributs de Dieu. Ces attributs distinguent nettement Dieu de ses créatures. Ils excluent l'idolâtrie et condamnent le faux culte de ce monde. Ils fournissent un contenu définitif à la connaissance du cœur qui caractérise le peuple de la véritable alliance de Dieu. Les attributs donnent de la couleur et de la clarté au culte. Ils scintillent brillamment dans l'œuvre salvatrice de Dieu en Christ. L'étude des attributs de Dieu est la joie de la théologie évangélique et elle conduit au plus grand des dons, la connaissance du Seigneur. Le troisième point qu'on va regarder, c'est qu'une approche biblique pour étudier les attributs de Dieu. Bien que certains philosophes et théologiens aient tenté de définir les attributs de Dieu de la création ou des principes évident de l'esprit, nous ne chercherons pas à construire une théologie naturelle. Au lieu de cela, nous visons à construire une perspective systématique sur la nature de Dieu, basée sur ce qu'il révèle de lui-même dans sa parole. Cette approche implique les principes suivants. Premièrement, les attributs de Dieu sont révélés à travers les mots et les doctrines de la Bible. Dieu nous a donné des mots spécifiques pour le décrire, tels que puissance, sagesse et bonté. Nous utilisons ces termes avec une garantie biblique explicite. Nous pouvons également décrire Dieu en utilisant des termes avec une garantie biblique implicite. Bien que de tels termes n'apparaissent pas dans la Bible, il résume avec précision ce qu'elle enseigne sur Dieu. Par exemple, nous pouvons parler de l'infinité de Dieu sur la base de la déclaration biblique du psaume 145, verset 3, « Sa grandeur est insondable ». Dieu nous demande de réfléchir à ce qu'il nous dit de lui-même et de reconnaître ses implications logiques. Par exemple, la Bible dit non seulement que Dieu aime les gens, mais que Dieu est amour. Que signifie que Dieu est amour? Comme nous le verrons, de telles déclarations bibliques nous conduisent à la doctrine de la simplicité divine. Nous ne devrions pas craindre d'utiliser une terminologie qui ne se trouve pas explicitement dans les pages des Saintes Écritures, si de tels termes expriment vraiment les doctrines de la parole de Dieu. Deuxièmement, les attributs de Dieu sont révélés concernant sa nature divine unique, le fait qu'il est un. Bien qu'il existe de nombreux attributs, Dieu lui-même est un. Moïse a écrit « Écoute, ô Israël, le Seigneur notre Dieu est un seul Seigneur. » Deutéronome 6, verset 4. Comme les facettes étincelantes d'un diamant et le spectre de couleurs émis par un seul soleil, les attributs sont des rayons de la perfection rayonnante de Dieu. Comme cela sera plus clair lorsque nous discuterons de la simplicité de Dieu, les attributs de Dieu ne sont pas partie de lui, mais des aspects de qui il est. Dieu n'est pas un composé de ses attributs, car il n'a pas de partie. Nous ne devrions pas parler de l'essence, de la substance ou de l'être de Dieu comme si c'était quelque chose de distinct de ses attributs, une sorte de substance qui sous-tend les attributs. Avec des termes tels que l'essence et l'être, nous affirmons que Dieu est, et lorsque nous identifions ses attributs, nous décrivons qui est Dieu. L'être et les attributs de Dieu sont co-extensifs. Les attributs ne sont pas des ajouts à l'être de Dieu. Ils ne peuvent pas non plus être soustraits à Dieu comme nous pourrions couper un bras à un homme. Les attributs sont Dieu et Dieu est ses attributs. Hermann Bavinck a dit « Les Écritures ne savent rien de l'être de Dieu en dehors de ses attributs. Cependant, Dieu est plus grand que ce que l'Écriture peut dire au sujet des attributs, car ils sont des révélations de sa gloire infinie, d'une manière adaptée aux êtres finis. Les attributs de Dieu ne sont pas identiques les uns aux autres, mais des caractéristiques distinctes de sa nature telle qu'il l'a révélée. Dire que l'amour, la sagesse et le pouvoir sont identiques, c'est évaluer toute signification à partir du langage et détruire toute véritable connaissance de Dieu. Cependant, il ne s'agit pas de nier l'unité essentielle de Dieu. Turretin a déclaré, « Bien que les attributs soient essentiellement et intrinsèquement un en Dieu, on peut néanmoins dire à juste titre qu'il se distingue à la fois intellectuellement et objectivement et efficacement quant à leurs divers objets et effets externes. Troisièmement, les attributs de Dieu sont révélés dans chaque personne de la Trinité. Nous ne parlons pas des attributs d'une nature divine impersonnelle, mais des attributs du Dieu trinitaire, le Père, le Fils et le Saint-Esprit partagent un nom ou une nature glorieuse. Ils ont une omniprésence et une éternité. Excusez. Par conséquent, les attributs sont tous égaux à toutes les personnes et également affirmés de toutes. Les trois personnes divines partagent tous les attributs essentiels de Dieu, bien que chaque personne est sa propriété personnelle distincte en tant que Père, Fils ou Esprit. Alors que la doctrine de la Trinité occupera une partie ultérieure de cet enseignement, même ici, nous devons en tenir compte lorsque nous considérons les attributs de Dieu. Notre preuve de la Trinité commence par notre étude des attributs attribués à chaque personne et notre enquête sur les attributs est trinitaire. Quatrièmement, les attributs de Dieu sont révélés dans des actes divins de seigneurie d'alliance. Ce que Dieu a fait pour son peuple montre ses attributs en tant que seigneur de l'alliance. Lorsque Dieu délivra Israël d'Égypte, il accomplissait son ancienne alliance avec Abraham, comme on peut le lire dans Exode 6, versets 3 à 5 et verset 8. Les actes puissants de rédemption de Dieu visent à réaliser la relation d'alliance, comme on peut le lire dans Exode chapitre 7, versets 1 à 5. L'Éternel dit à Moïse, « Vois, je te fais Dieu pour Pharaon, et Aaron, ton frère, sera ton prophète. Toi, tu diras tout ce que je te redonnerai, et Aaron, ton frère, parlera à Pharaon pour qu'il laisse aller les enfants d'Israël hors de son pays. Et moi, j'endurcerai le cœur de Pharaon, et je multiplierai mes signes et mes miracles dans le pays d'Égypte. Pharaon ne vous écoutera point. Je mettrai ma main sur l'Égypte, et je ferai sortir du pays d'Égypte mes armées, mon peuple, les enfants d'Israël par de grands jugements. Les Égyptiens connaîtront que je suis l'Éternel lorsque j'étendrai ma main sur l'Égypte et que je ferai sortir du milieu d'eux les enfants d'Israël. » Notre étude des attributs de Dieu suivra la trajectoire des actes de Dieu culminant dans l'œuvre achevée de Jésus-Christ. De la création à la nouvelle création, Dieu révèle les perfections de son nom dans ce qu'il fait en tant que Seigneur d'alliance de son peuple. Une focalisation sur les œuvres de Dieu aide notre étude de sa nature à porter des fruits dans la piété. Notre objectif est de connaître Dieu tel qu'il est actif dans l'histoire et dans nos vies. Il a choisi d'unir la révélation verbale de ses attributs aux merveilles accablantes de ses œuvres. Et comme l'a dit Calvin, nous pouvons en déduire que la grandeur de Dieu n'est pas celle qui se cache dans son essence mystérieuse, car la religion exige des connaissances pratiques et non spéculatives. Et cinquièmement, les attributs de Dieu sont révélés pour la foi, l'adoration et l'imitation. La pire chose que nous puissions faire avec les attributs de Dieu est de les apprendre et de les laisser de côté. Chaque attribut est comme une poignée pour que la main de la foi s'accroche à Dieu. Abraham a fait confiance à la promesse de Dieu d'un enfant quand il était vieil homme parce qu'il était pleinement persuadé que ce qu'il avait promis, il pouvait aussi l'accomplir, comme on peut le lire dans Romains chapitre 4, verset 21. Sarah conçut Isaac par la foi, car elle jugea fidèle celui qui avait promis. On peut le lire dans Hébreux chapitre 11, verset 11. Confiant en ce grand Dieu, les saints élèvent leur voix de louange. « Qui est semblable à l'Éternel notre Dieu, qui habite dans les hauteurs? » Psaume 113, verset 5. Son tendre amour pousse leur cœur à s'exclamer, comme on peut lire dans Michée, chapitre 7, versets 18 et 19, « Quel Dieu est semblable à toi, qui pardonne l'iniquité, qui oublie les péchés du reste de ton héritage? Il ne garde pas sa colère à toujours, car il prend plaisir à la miséricorde, il aura encore compassion de nous, il mettra sous ses pieds nos iniquités, tu jetteras au fond de la mer tous leurs péchés. » L'un des grands honneurs qu'ils rendent à Dieu est leurs aspirations à devenir comme lui, en tant que porteur de son image. Les enfants bien-aimés de Dieu marchent dans l'amour, comme des imitateurs de Dieu. On peut lire dans Éphésiens chapitre 5, verset 1. En tant qu'enfant obéissant, il s'efforce d'être saint parce qu'il est saint, et leur grande ambition est de lui plaire. 1 Pierre chapitre 1, versets 14 à 17. Terminons donc l'étude des attributs de Dieu par cette prière. Puissais-je te connaître plus clairement, t'aimer plus tendrement et te suivre de plus près jour après jour. Alors, l'application qu'on peut faire de cette très brève étude, j'en vois au moins une. Prions le Seigneur de nous donner de mieux comprendre la grandeur infinie de sa personne. Les saintes Écritures sont remplies de sa gloire dans toutes ses facettes. Que le Seigneur nous donne une soif inextinguible de le connaître par le moyen de ses attributs. L'éternité elle-même ne suffira pas pour que l'on découvre toute la richesse, toute la beauté et toute la profondeur de son être. Qu'il soit béni, loué et adoré éternellement. Amen.